Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Du Grain à Moudre. Ce soir, le handicap a-t-il sa place à l'école ? Ensemble pour une école inclusive, c'était le thème de la concertation lancée en octobre dernier par le gouvernement en vue d'une meilleure prise en charge des élèves en situation de handicap. La restitution a eu lieu ce matin en présence des ministres concernés. Parmi la priorité, les priorités, la revalorisation du métier d'accompagnant. Un plan d'action sera présenté au mois de mars. La date de ce lundi n'avait pas été choisie au hasard. Elle coïncide avec le 14e anniversaire de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Loi décisive, elle a instauré un droit à la scolarisation pour tous les enfants et adolescents handicapés. En 2006, il n'était que 100 000 à être scolarisés, contre 340 000 lors de la dernière rentrée. Alors si des progrès ont été réalisés sur le plan quantitatif, beaucoup reste à faire d'un point de vue qualitatif. Formation des enseignants, revalorisation des accompagnants, les AVS et les AESH, mise à disposition de matériels adaptés, plus grande écoute des familles, meilleure socialisation des élèves, l'école inclusive est encore loin d'être une réalité. Alors le handicap a-t-il sa place à l'école ? Pour en discuter ce soir, quatre invités. Christelle Chasson, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la mère d'un adolescent polyhandicapé. Vous venez de Thonon-les-Bains, ça se trouve en Haute-Savoie. Vous venez de publier, c'est il y a quelques jours de cela, aux éditions Autrement. Ethan ira-t-il à l'école ? Ethan, c'est le prénom de votre fils. Le combat d'une mère. Pour discuter avec vous, Christelle Chantreau-Béchouche, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Vous êtes la mère de trois enfants qui ont aujourd'hui 6 ans, 17 ans et 22 ans, qui ont des troubles de l'apprentissage. Vous êtes vous-même dysgraphique. On va parler des 10 ce soir. Il faudra un petit peu expliquer ce que c'est. On va rentrer un petit peu dans le monde des cycles liés aux troubles de l'apprentissage. Vous venez de Biarritz, dans les Pyrénées-Atlantiques. Vous avez publié, c'était l'an dernier aux éditions Josette Lyon, justement 10, TDAH, EIP, le manuel de survie pour les parents et pour les profs. Justement, nous avons une prof. C'est notre bonsoir. Troisième invité, Laurence Bossy, bonsoir. Professeur de lettres modernes au collège lycée Élie Vignal de Caluire et Cuire, qui se trouve près de Lyon. Un établissement passerelle qui accueille des élèves en situation de handicap. Vous aussi, vous avez une publication qui a été éditée par les éditions de l'ENS, c'était l'an dernier. Inclure le handicap, recomposer l'école, publication collective. Vous êtes une des contributrices de cet ouvrage. Et puis notre quatrième invité, il est sociologue, c'est Serge Ebersold. Bonsoir.
Bonsoir.
Professeur au CNAM, le Centre National des Arts et Métiers, vous y êtes en charge de la chaire Accessibilité. On vous doit aux presses universitaires de Grenoble en 2017. L'éducation inclusive, privilège ou droit ? Alors je vais commencer, si vous le voulez bien, par les deux mères de famille. Mais évidemment, on est dans une discussion collective. Christelle Chasson, donc votre fils Ethan a 13 ans, un petit peu plus de 13 ans, hein, je crois, aujourd'hui.
13 ans et demi.
Il est scolarisé à mi-temps en 5e ULIS de son collège. ULIS pour Unité Spécialisée pour l'Inclusion Scolaire. C'est quoi d'ailleurs une classe ULIS, peut-être pour commencer, pour les gens qui ne sauraient pas de quoi il s'agit ?
C'est un dispositif particulier donc qui se retrouve dans une école ordinaire et qui permet comme ça à des élèves qui ont des besoins particuliers de bénéficier d'apprentissages qui correspondent justement à leurs besoins.
Donc c'est une classe spécifique dans un établissement ordinaire.
Tout à fait. Et puis les élèves qui le peuvent, ben ils peuvent selon leur capacité, selon leurs moyens, effectivement participer aux cours de leur classe d'âge.
Je disais que vous venez de Haute-Savoie, est-ce que c'est facile de trouver ce genre de classe ? Est-ce qu'il y en a dans la plupart des établissements ou bien est-ce qu'il faut...
Il n'y en a pas assez.
Pas assez ?
Il n'y en a pas assez au niveau du collège et au niveau du lycée, ça devient dramatique parce que là, il n'y en a presque plus. Donc j'ai vu qu'effectivement, c'était annoncé, Sophie Cluzel l'a annoncé, mais voilà, le fait est que là, par exemple, si mon fils poursuit sa scolarité au lycée, ça va être très compliqué.
Sophie Cluzel, c'est la secrétaire d'État en charge du handicap. Christelle Chantreau-Béchouche, alors les troubles que connaissent vos enfants sont un petit peu différents du fils de Christelle Chasson. Vous, ce sont des troubles des apprentissages. Ils sont notamment 10, alors quoi, dyspraxique, dysgraphique, dyslexique.
Voilà, tout à fait, dyspraxique, dysgraphique et dysgraphique pour la petite dernière. Ouais,
ce qui veut dire, si on devait résumer ces types de troubles, c'est-à-dire du mal à écrire, du mal à parler.
Alors de la lenteur, non, pour la le dyspraxique, lui, c'est plus une coordination, des problèmes de coordination, d'organisation de son travail, les couleurs, les codes couleurs, tout ça à mettre en place. C'est vrai que c'est très difficile pour lui de s'orienter dans l'espace aussi, et l'écriture aussi est touchée, puisqu'il y a la dyspraxie graphomotrice qui est liée, comme Ensuite, tout ce qui est lié au mouvement, la coordination et voilà, en fait, des troubles liés aux apprentissages, en fait.
Le plus âgé a 22 ans, le plus jeune a 6 ans. Il y a un écart de 16 ans entre les deux, entre l'aîné et la Benjamin. Est-ce que vous avez vu, vous, en 16 ans, justement, évoluer la façon dont l'école peut, comment dire, se confronter à ce genre de troubles de l'apprentissage?
Alors j'aimerais bien vous dire que oui, mais moi j'ai rien vu du tout. Enfin si, j'ai vu effectivement qu'il y avait des choses qui changeaient, qui se mettaient en place, mais entre l'aîné, on a bien vraiment vraiment galéré pour l'aider, et la petite dernière qui rentre au CP, on a vraiment... Alors cette année exceptionnellement, on a une enseignante qui a fait une formation en neurosciences, donc on voit vraiment la différence. Mais l'an dernier, en grande section, on lui disait déjà qu'elle n'y arriverait pas et que le CP allait être très difficile pour elle. Donc elle s'est déjà mis la pression en grande section.
Pour votre fils Christelle Chassamba, l'histoire justement de votre livre, c'est le combat que vous avez mené pour réussir à faire scolariser votre fils qui est donc aujourd'hui au collège. Quels sont les besoins qui sont les siens, les besoins spécifiques qui sont les siens par rapport à son apprentissage et à sa scolarisation?
Alors mon fils déjà il a besoin d'aide technique, hein, parce que comme il a un problème moteur important, il a besoin effectivement d'écrire avec un ordinateur adapté, une tablette adaptée, un trackball, enfin tout le matériel technique doit être adapté. Et puis principalement aussi c'est une aide humaine et effectivement une aide humaine formée.
Alors on va
c'est
voir,
ce qu'il aurait besoin, effectivement.
Et on va voir justement comment peut être mise en place, ou en tout cas améliorer cette aide humaine, à la fois du côté des enseignants, mais aussi des accompagnants. Laurence Bossy, donc vous êtes enseignante. Peut-être déjà pour faire un peu un point sur les grandes tendances, disons. J'évoquais cette loi de 2005, donc qui remonte à il y a 14 ans, avec ce chiffre. À l'époque, 100 000 enfants en situation de handicap qui sont scolarisés. Aujourd'hui, d'après les chiffres qui sont donnés par le ministère de l'Éducation, enfin, à la dernière rentrée, c'était 340 000. Est-ce qu'on peut dire que la France scolarise de plus en plus ses enfants et qu'en tout cas, il y a eu vraiment un avant et un après loi de 2005?
Oui, moi je le trouve sur le terrain. Hein. J'ai enseigné dans l'ordinaire avant d'arriver dans l'établissement un peu spécifique et singulier qu'est la cité scolaire Elie-Vignal. Et je trouve que les choses ont avancé. Alors je suis peut-être optimiste. Mais quand j'ai commencé à accueillir des élèves dyslexiques, c'était en 2006. Je trouve qu'aujourd'hui, quand je suis aussi formatrice académique, quand je vais dans des établissements, rares sont les enseignants qui sont opposés au fait de mettre en place des aménagements. Après que tout
c'était le cas il y a quelques années.
Oui. Oui, c'était le cas il y a quelques années et où on avait envie plutôt de rassembler tous ces élèves 10 dans une même classe. Aujourd'hui, il n'est plus question de ça. Il est question de les amener à une accessibilité par rapport à leur handicap et de regarder ces jeunes en termes de besoins, quels sont leurs besoins spécifiques et comment est-ce qu'ils entrent dans les apprentissages de la même façon que tous les autres. Alors évidemment, je travaille à la cité scolaire Elie-Vignal qui accueille des jeunes qui sont tous notifiés par la maison du handicap sur une scolarité ordinaire. Donc ils passent le bac, le brevet. Et c'est important qu'ils puissent accéder à tous les apprentissages, quels que soient leurs troubles 10 et autres, effectivement.
Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous, Serge Bersold, depuis une quinzaine d'années, c'est-à-dire depuis cette loi qui a quand même été un grand tournant, c'est-à-dire la précédente grande loi, c'était 1975, donc il a quand même fallu attendre 30 ans pour qu'il y en ait une nouvelle. Qu'est-ce qui a le plus changé pour vous? Est-ce que c'est justement dans le regard peut-être qui est porté sur ces enfants? Est-ce que c'est d'abord peut-être une question matérielle, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, oui, tous les établissements permettent l'accès, on va dire, matériel à ces enfants en situation de handicap?
Je crois qu'il y a plusieurs choses qui vont évoluer de manière assez radicale. La première, c'est que les enfants ont le droit d'être scolarisés dans l'école de leur quartier. Et ce qui revient à dire que tout élève, quel qu'il soit, indépendamment de sa particularité, peut aller à l'école et les acteurs du système scolaire n'ont pas le droit de le discriminer au regard de sa particularité. Et ça, c'est extrêmement important.
Donc c'est une forme de droit opposable.
C'est une forme de droit opposable. Et finalement, le droit à l'éducation reconnu par la loi du 11 février 2005, mais aussi la loi du 23 avril 2005, qui est extrêmement importante, parce qu'effectivement, elle élargit les grilles de lecture du besoin éducatif particulier. C'est-à-dire qu'elle permet d'élargir et de ne pas résumer la question de la scolarisation des élèves reconnus handicapés ou la question de l'éducation inclusive à la scolarisation des élèves en situation de handicap. Parce que ce qui est également évolué depuis ces 14 dernières années, c'est que l'éducation inclusive ou l'école inclusive concerne une large proportion d'élèves, bien plus que la scolarisation des élèves ayant un projet personnalisé de scolarisation. Ce qui revient à dire que si l'éducation inclusive était ou signifiait la volonté de scolariser une minorité, les élèves présentant une déficience, désormais l'éducation inclusive est synonyme d'une école ayant vocation à assurer la réussite de tout élève.
Voilà, on n'est plus seulement, dans une appréciation quantitative mais qualitative. Sur cette question quand même de ce que change la loi, c'est-à-dire les établissements sont tenus d'accueillir les élèves si les parents souhaitent bien sûr les scolariser. Il y a quand même des enfants qui sont en situation de handicap qui ne le sont pas, sans doute parce que peut-être que le handicap est trop lourd. Ce qui empêche de l'être, c'est peut-être une partie de l'explication. En tout cas, les derniers chiffres là, que j'ai pu trouver, c'est 25 000 qui ne le sont pas. Est-ce que vous, en tout cas, Christelle Chantrobéchouge, vous avez été confrontée à des difficultés de scolarisation? Ou est-ce qu'il y a certaines écoles où on vous a dit, ben non, vos enfants qui ont des troubles de l'apprentissage, c'est pas forcément pour nous?
Ah ouais, j'ai carrément même un enseignant qui a refusé mon fils en troisième de venir en mathématiques pendant toute l'année. Parce que il avait le mot, c'était tant qu'il n'y arrivera pas, il ne reviendra pas. Et j'ai gardé le mot parce que c'était quand même phénoménal.
Mais tant qu'il n'y arrivera pas, c'est-à-dire c'était quoi?
Il ne comprenait pas qu'il ne puisse pas y arriver. Donc en fait, c'était de sa faute. Donc il a été exclu du cours de toute l'année. Et j'ai dû me débrouiller. Je suis allée dans le privé. Je suis même allée dans du privé puisque j'ai pris des cours particuliers dans un établissement scolaire. Mais finalement, ce que je constate, c'est qu'on va, la plupart d'entre nous, nous allons dans le privé. Parce que moi, je trouve que dans le privé, ils les encadrent bien. Le public, j'aimerais bien. Enfin, si pour ce qui est des classes charnières, puisqu'après, ils partent en seconde. Donc là, il faut mettre en place pas mal d'aménagements. Et c'est vrai que le public sont beaucoup mieux organisés pour ce qui est des plans et avec les médecins scolaires. Enfin bon, le privé aussi, mais ça cafouille un peu partout aussi. Et en fait, j'ai l'impression qu'au bout de la chaîne, il n'y a personne vraiment ne sait ce qu'il faut faire.
Vous avez eu une expérience proche, Christelle Chassant, c'est-à-dire de refus d'établissement pour scolariser votre fils. Je crois que vous avez dû à un moment donné faire intervenir un huissier, un avocat. Hein.
Exactement, moi c'est l'inverse. Moi c'est dans le privé que ça s'est très mal passé, une école privée catholique où effectivement mon fils était considéré comme un rebut de la société et on m'a dit clairement qu'il n'avait pas sa place. Donc il a été isolé, on l'a maltraité physiquement, il a été mis dans un couloir, il travaillait dans le froid avec un bonnet, un manteau. Ça a été vraiment une violence insoutenable qui a duré plusieurs années. Effectivement, voilà, on s'en est sorti parce qu'on est passé dans le public et même s'il y a encore d'autres incohérences, ça va quand même beaucoup mieux. Je ressens beaucoup plus de bienveillance aujourd'hui. Mais le souvenir de toutes ces souffrances, pour moi, c'est encore présent et c'est aussi présent pour mon fils, quoi. Moi, j'ai encore du mal à penser à l'école de façon positive quant à l'inclusion de ces enfants handicapés parce qu'effectivement, moi, je me suis rendu compte que c'était au petit bonheur la chance. Il y a une année, on tombe bien. Une année, on tombe sur un directeur d'établissement qui est très empathique, c'est le cas cette année, qui vraiment a vraiment envie que mon fils s'en sorte. La maîtresse, c'est son cas aussi, mais le problème, c'est l'année prochaine. Est-ce que le directeur sera encore présent? Est-ce que ça sera une autre maîtresse? Et quel sera leur regard face au handicap?
Il avait quel âge votre fils quand il s'est retrouvé comme ça, mis à l'écart
Entre 4 ans et 6 ans.
Et les enseignants ou les enseignantes, enfin je sais pas.
C'est l'enseignante en l'occurrence qui n'en voulait pas dans sa classe. Elle le supportait pas.
Et pour quelle raison? Parce qu'il créait du trouble, enfin je sais pas.
Non, pas du tout. Il était calme à ce moment-là. C'est parce qu'en fait, comme il a un problème buccofacial, il n'arrive pas à s'exprimer comme vous et moi. Et c'est vrai que du coup, quand il essaye de parler, il fait des bruits. Et la maîtresse, elle trouvait ça tout à fait insupportable. Et elle le voulait pas dans la classe.
Ça dépend encore beaucoup l'inclusion des élèves en situation de handicap, de la bonne volonté. Il n'y a pas que de la bonne volonté. Il y a aussi de la formation. Il faut aussi connaître ce que sont ces handicaps. Mais en tout cas, il y a encore un côté assez aléatoire dans la façon d'accueillir ces élèves. Serge Ebersold.
C'est-à-dire que les droits fondamentaux, comme le droit à la scolarisation, qui est reconnu par la loi de 2005, ça ne s'impose pas. Ça se légitime. Et c'est bien une des difficultés que rencontrent les différents acteurs, c'est-à-dire que le législateur reconnaît des droits aux personnes, charge aux établissements de concrétiser ces droits. Et c'est là qu'on se rend compte que les politiques d'établissement sont extrêmement importantes et le rôle et les missions, les grilles de lecture des rôles et les missions des établissements sont également importants. C'est-à-dire que lorsque l'établissement scolaire a une politique qui vise à se penser comme une communauté éducative, c'est vrai que la différence fait partie de la diversité humaine. Et donc s'ouvrir aux autres élèves fait partie des missions de l'école. Lorsqu'on résume le rôle de l'établissement scolaire à un rôle d'instruction, toute personne dérogeant au programme ou la manière dont on se représente la mise en œuvre du programme, on arrive à être vu comme inadapté, n'ayant pas sa place.
Vous êtes d'accord avec ce constat, Laurence Bossy ?
Alors, moi, je trouve que, oui, je suis assez d'accord. Ça ne se décrète pas, ça se construit. Et c'est vrai que je crois que si on a des efforts à faire, et j'entends les situations de souffrance de certains parents, puis de certains enfants dans l'école, il n'empêche que c'est par la logique partenariale qui me semble qu'il faut travailler. Et là où vous avez parlé de gens, en fait, il faudrait que ça ne soit plus personno-dépendant et que ça dépende d'une logique partenariale.
Alors, qu'est-ce que vous entendez par logique partenariale ? C'est-à-dire entre les enseignants et les parents.
Entre les enseignants, les AVS, les parents, bien sûr, les parents sont les premiers partenaires avec le jeune, et autour de ça, les AESH qui sont présents, les enseignants, les coordonnateurs ULIS, les chefs d'établissement, les CPE, toute la dynamique de l'établissement autour de la prise en compte d'un jeune, et aussi avec les partenaires qui sont extérieurs, c'est-à-dire collaborer ici avec les équipes médicales. En travaillant en centre de référence également dans une de mes missions, des centres de référence des troubles des apprentissages du docteur Revol, je travaille effectivement dans ce pivot qui est entre l'équipe, faire l'interface entre l'équipe médicale et l'établissement de secteur du jeune, puisque c'est là où il est le mieux, effectivement, avec ses copains, et qu'on puisse se retrouver avec un travail collectif autour de ce jeune pour essayer de comprendre quels sont ses besoins spécifiques.
Alors, vous avez évoqué quelques sigles qu'il faut expliciter. AVS, c'est auxiliaire de vie scolaire.
Alors maintenant, AESH, oui.
Et AESH, accompagnant d'élèves en situation de handicap. Alors, voilà, normalement, les AVS sont censés disparaître, je crois. Enfin, c'est une question de statut, mais en gros, le travail est plus ou moins le même, non ? Vous me confirmez ? Oui, autour de la table.
C'est deux ans supplémentaires.
Oui, c'est l'étiquette qui change, effectivement.
Voilà. Alors, il y a d'ailleurs des revendications qui existent, hein, du côté des gens qui exercent ce métier, parce qu'il y avait une grève mercredi dernier, ils réclament notamment de meilleurs salaires, un statut pérenne. Il y a un projet de statut unique qui devrait arriver, qui était déjà dans une proposition de loi qui avait été présentée par les Républicains il y a quelques mois de cela, qui avait été rejetée par la majorité, le gouvernement disant ben non, mais ça fait partie de nos projets. Donc, on va mettre en place ce statut unique. L'accompagnement, c'est quelque chose dont on bénéficie ou dont bénéficient vos enfants, Christelle Chantreau-Béchouche.
Alors, l'aîné a eu un accompagnement. En fait, il a principalement travaillé avec un ordinateur en classe, des aménagements qu'on a dû mettre en place avec lui. Donc, comme c'était effectivement il y a 15 ans, on a bien bataillé pour avoir une imprimante en classe, des cours sur clé USB. Voilà, il n'y avait pas de plan encore comme aujourd'hui. Ce qu'aujourd'hui, ils mettent en place des plans d'accompagnement qui sont vraiment reconnus par l'État. Mais la plupart des enseignants encore aujourd'hui ne sont paniqués dès qu'ils voient les plans. Enfin, PPRE, PAP, tout ça sont des sigles. En fait, ils en font un en général, le PAP. Ils passent directement au PAP sans savoir qu'il y a un PPRE juste avant.
PAP, PPRE, voilà. Juste pour nous.
Alors, PAP, plan d'accompagnement personnalisé et PPRE, plan de réussite éducative, plan personnalisé de réussite éducative.
Donc, il y a eu cet accompagnement d'un point de vue matériel, mais est-ce qu'il y a eu, par exemple, des AVS, des auxiliaires de vie scolaire qui ont aidé vos enfants ?
Alors, il avait 14 ans au moment où on a fait la demande de l'AVS, puisque ça se mettait juste en place. Il a refusé, puisqu'il était adolescent. Il faut savoir aussi que le handicap, pour un adolescent, c'est difficile à porter, quand ce sont des handicaps invisibles, hein, bien sûr. Donc là, c'est vrai qu'il y a le regard des copains. Et donc, on a eu quand même l'aménagement au bac avec une secrétaire et un ordinateur. Mais même là, ce jour-là, la directrice était restée à côté de lui parce qu'elle elle suspectait quelque chose de bizarre. C'était vraiment les débuts, hein, en fait.
Quand Ethan est scolarisé en collège, je dis quand il l'est, parce que je crois qu'il l'est pas à plein temps, hein, c'est ça, c'est à mi-temps. De quelle aide est-ce qu'il bénéficie ? Donc lui, il travaille sur ordinateur. Est-ce qu'il y a aussi une personne qui est là pour l'accompagner ?
En permanence. Il a une AVS individuelle, c'était la condition sine qua non pour une poursuite de la scolarisation. Sinon, effectivement, c'est un enfant qui apprend vite et qui apprend bien, mais il a besoin d'être canalisé. Sinon, il va rester à 6-5 minutes et puis le reste du temps, il va passer à droite, à gauche, et au final, la scolarité, elle ne sera pas profitable.
Et c'est une personne qui le suit depuis plusieurs années ?
Non, du tout. Quasiment chaque année, on a une nouvelle AVS. Et cette année, en fait, l'AVS qui a été nommé pour s'occuper de mon fils, est resté 6 jours. Et puis il a dit que c'était trop compliqué, donc il l'a laissé en plan. Donc mon fils l'a très très mal vécu.
C'était trop compliqué, d'accord.
Oui.
Mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui connaissait pas forcément bien ce métier ?
Ben, faut croire que non. Mais au final, mon fils, il a bénéficié d'une seule assistante de vie scolaire formée depuis le début de sa scolarisation. La seule année, effectivement, où ça s'est bien passé, où on m'a pas appelé au secours parce qu'il y avait effectivement des troubles du comportement que l'école n'arrivait pas à gérer. La seule année où ça s'est bien passé, il y avait une AVS, oui, formée.
France Culture, du grain à moudre, Hervé Gardette.
Le handicap a-t-il sa place à l'école ? On en discute ce soir avec Christelle Chassan qui vient de publier « Tanira-t-il à l'école, le combat d'une mère » aux éditions Autrement. Christelle Chantreau-Béchouche, vous, votre livre c'est 10 TDAHEIP, le manuel de survie pour les parents et les profs aux éditions Josette Lyon. Vos trois enfants ont des troubles des apprentissages. Laurence Bossier, professeur de lettres modernes au collège lycée Élise Vignal de Caluire et Cuire près de Lyon, qui fait un petit peu la jonction, on va dire, entre des établissements spécialisés et le milieu scolaire pour ces enfants en situation de handicap. Et Serge Ebersold, qui est sociologue et qui s'intéresse justement à ces questions d'accessibilité. Je vous voyais réagir quand on a évoqué, quand Christelle Chassan a évoqué le fait que la dernière personne, la dernière AVS auxiliaire de vie scolaire était restée seulement 6 jours. Je lui posais la question du niveau de formation. Est-ce que ça fait partie justement des domaines sur lesquels il y a encore beaucoup de progrès à faire?
Oui, indiscutablement. Il y a une ambiguïté quant à la présence des assistants d'éducation. Ambiguïté au sens où on les sollicite, mais on ne sait pas si on les sollicite parce que l'enseignant ne peut pas, ne sait pas, ou si on le sollicite parce qu'il doit permettre à l'élève d'être vu et d'agir comme un élève. D'ailleurs, on a très peu d'éléments d'information sur ce que j'appelle l'effet capacitant des assistants d'éducation. C'est ce qui revient à dire que, à l'heure actuelle, le métier d'assistant d'éducation est extrêmement difficile à penser comme un métier au regard d'une technicité.
Il n'y a pas eu vraiment de travail d'évaluation pour savoir si ça aidait ou pas les enfants à être plus à l'aise dans les apprentissages.
Il y a très peu de données qui existent sur l'apport de l'AVS en termes de réussite scolaire. Je ne dis pas que c'est pas le cas, je dis qu'il n'y a pas de données. Donc par là même, on ne peut pas penser une technicité. Et ce qui est intéressant d'observer, c'est que depuis 2012, il y a très peu de moyens qui ont été développés au regard de l'adaptation pédagogique. Je crois que c'est entre 3 et 4%, c'est à peu près stable. Alors qu'on est passé à peu près de 30 à 39% pour les assistants d'éducation. Ce qui revient à dire que plutôt que de chercher à soutenir les acteurs de l'école, pour qu'ils répondent à la diversité des profils éducatifs, on a préféré mobiliser, et j'ai été mobilisé moi-même lorsque les assistants d'éducation, enfin les auxiliaires d'intégration à l'époque ont été créés, c'est-à-dire qu'on a préféré mobiliser de nouveaux professionnels sans pour autant leur permettre d'être légitimes dans la coopération entre les enseignants et les parents et les autres acteurs du système.
Alors l'enseignante Laurence Bossier et la parente d'élève Christelle Chantreau-Béchouche veulent réagir. Je commence
oui,
par vous,
je
Laurence
Bossier. C'est une fonction qui mériterait effectivement une meilleure reconnaissance professionnelle, mais je vois sur l'établissement dans lequel on travaille, il y a 14 AESH qui travaillent de façon mutualisée, et quand cette organisation elle est élaborée, elle est efficace. Elle est efficace parce qu'il y a une explicitation des missions qu'ils ont, qui est à la fois dans les gestes de la vie quotidienne et dans les gestes de l'accompagnement dans la classe, ça veut dire recentrage sur la tâche, par exemple, ça veut dire écrire à la place de l'élève s'il faut lui éviter la double tâche. Donc, toute cette mutualisation, elle vient ici donner un effet tout à fait intéressant. Quand elle est mutualisée, 14 AESH, ça veut dire un AESH qui est responsable et référent de la classe, qui vient assister aussi et qui devient un vrai partenaire de travail avec les enseignants, avec les parents, au moment des équipes de de suivi de scolarisation.
Mais ça suppose une certaine stabilité des équipes, justement.
Effectivement. Donc, quand on a 14 AESH, on se retrouve avec une équipe ici pour 100 élèves qui, effectivement, peut être mutualisée. Il n'empêche que cette mutualisation, elle peut avoir un effet après intéressant sur d'autres conceptions de ce métier dans des établissements, si on les amène à mutualiser leurs expériences.
Christiane Chantreau-Deschouches.
Non, ce que j'entends là, mais en fait, ce que je remarque, c'est que vous avez un établissement qui, visiblement, fonctionne très, très bien, puisqu'il est vraiment spécialisé, mais dans la plupart des établissements, c'est pas du tout comme ça. Et les AVS ne sont quasiment pas formés à la problématique de l'enfant. En général, elles ne savent même pas à qui elles ont affaire, quel handicap elles ont affaire, et en plus, elles sont vraiment sous-payées. Ce sont des contrats de fin d'indemnisation, et ce sont des personnes qui ne savent vraiment pas, qui même peut-être elles-mêmes... Mais on peut-être des troubles aussi des apprentissages. Enfin, je sais pas.
Il y en a une d'ailleurs qui réagissait la semaine dernière à l'occasion de la grève. Je sais plus précisément dans quel journal j'ai lu ce témoignage, mais qui disait quand on est soi-même fragile, c'est-à-dire mal payé et précaire, c'est difficile de s'investir dans l'accompagnement d'un enfant.
Sûr. Oui, mais c'est d'autant plus difficile, si vous voulez, à reconnaître comme métier que on ne permet pas aux assistants d'éducation de revendiquer une technicité. Or, dans le travail que j'ai mené autour du devenir des lycéens, je leur ai demandé en quoi les soutiens dont ils bénéficiaient leur permettaient d'exercer les mêmes tâches que les autres élèves. Il n'y a que 30% qui estimaient que, grâce à leurs aides, ils pouvaient exercer les mêmes tâches que les autres élèves. Ce qui revient à dire que, dans un certain nombre de cas, l'aide est vue comme une fin en soi, et non pas comme quelque chose que l'on mobilise pour permettre à l'élève d'être vu et d'agir comme un élève.
Il en pense quoi, votre fils, Christelle Chassan ?
Ben moi, de toute façon, il comprend bien que sans l'accompagnement de cette personne, il ne peut pas être scolarisé. Je veux dire, à un moment donné, on ne peut pas se voiler la face. Il y a des enfants handicapés qui peuvent être scolarisés sans accompagnement particulier, mais ce n'est pas le cas de mon fils. Ce ne sera peut-être pas toujours le cas, mais en tous les cas, aujourd'hui, effectivement, il a ce besoin-là. Et moi, de toute façon, je refuserais qu'il soit scolarisé sans une aide particulière. Alors après, de temps en temps, c'est arrivé qu'effectivement, l'AVS ne soit pas là pour une raison personnelle. Et effectivement, ça ne va pas forcément moins bien. Mais je pense que c'est ponctuel. Mais si vraiment on veut lui permettre d'avancer comme les autres élèves, si on veut lui permettre aussi d'être accompagné, et moi, il est impératif que mon fils soit suivi pendant les temps de récréation. Je veux absolument pas qu'il soit la cible de moqueries. Donc il est impératif que mon fils puisse être accompagné d'une AVS, y compris d'ailleurs sur le temps de cantine, la pause méridienne. Il peut pas être seul. C'est quelque chose qui n'est pas envisageable pour le moment.
Quand vous dites, quand vous exprimez cette crainte qu'il soit la cible de moqueries, est-ce que ça veut dire que le cas de votre fils, donc Ethan, n'a pas forcément été bien expliqué aux élèves de l'établissement dans lequel il est scolarisé? C'est-à-dire qu'ils ne savent pas forcément pourquoi il est là et pourquoi il bénéficie de ce soutien?
Merci beaucoup pour cette question. Alors en fait, il y a zéro sensibilisation au handicap. Moi, je le dis, ça fait des années que j'en parle, parce qu'en fait, on les jette dans la fosse aux lions, ces gamins-là. On les met en difficulté par rapport aux autres élèves, parce qu'effectivement, il y a aucune formation. Moi, mon fils, il a passé 6 ans. Il a fait une année de grande section, 5 années de primaire avec des élèves. Moi, j'ai fait un texte pour qu'il soit lu, justement, à tous les élèves du collège. 42 classes, mon texte a été lu dans 4 classes sur 42. Et parmi ces 4 classes.
4 classes sur 42.
42. Or, pourquoi? Pourquoi 4 et pas 42? Voilà, c'est un peu la question. Bah, peu importe. Ce qui fait que le jour où effectivement ce texte-là a été lu, des enfants qui avaient partagé les années de primaire avec mon fils sont sortis de la cour et sont venus me voir en me disant, mais en fait, c'est incroyable, Ethan est comme nous. C'est juste qu'en fait, il parle pas, mais finalement, il est comme nous. On a les mêmes passions. Et au final, moi, j'étais contente et en même temps, j'étais d'une tristesse parce que je me suis dit, au final, ces gamins-là, ils sont passés à côté de mon fils. Et mon fils, il a pas eu la chance. L'éducation nationale n'a pas servi de trait d'union pour lui permettre de montrer qui il était.
Laurence Bossy.
Oui, je voulais réagir parce qu'effectivement, il n'y a pas toujours d'intervention pertinente de la part des AESH. Il n'empêche que ça serait intéressant d'utiliser, quand il y a un établissement qui fonctionne, cette ressource-là. Si on lit la publication de l'ENS à laquelle j'ai participé avec Nathalie Duponchel, il y a une AESH qui intervient et qui a raconté un petit peu la pratique particulière qu'il y avait sur notre établissement. Et faisons-la valoir pour la diffuser à d'autres. Ils ont mis en place, par exemple, une fiche riche d'évaluation des besoins et de l'autonomie de l'élève, qui passe aussi par une observation de ce qui peut se passer dans la cour, parce qu'ils ont une tâche importante auprès des jeunes pour les amener à avoir des relations avec leur père, avec leurs copains. Et effectivement, c'est une histoire de changement de regard.
Christelle Chantre-Béchouche, tout à l'heure, nous avait expliqué donc que votre fils n'avait pas souhaité avoir un auxiliaire de vie scolaire pour ne pas être stigmatisé. Alors, c'est vrai que les troubles de l'apprentissage, c'est une autre forme de situation de handicap un peu particulière, parce que c'est quelque chose que, enfin, ce que vous nous avez dit, notamment en préparant l'émission, c'est quelque chose qui ne se voit pas tout de suite, en tout cas. Est-ce que ça, c'est alors une autre forme de difficulté que de faire comprendre, notamment aux équipes enseignantes, qu'il va falloir qu'il y ait peut-être une approche un peu spécifique de l'enfant, mais que ce n'est pas tout de suite qu'ils vont mettre en place justement cet accompagnement spécifique, disons.
Ouais, tout à fait. En fait, ils enregistrent quand même tout ce qu'on leur donne, en fait, on leur apprend avec des méthodes. Il faut vraiment leur donner des méthodes adaptées à leurs troubles. Mais le problème, c'est que les enseignants pensent qu'ils sont feignants, qu'ils n'y mettent pas du leur, qu'ils sont des bons à rien, des cancres. Voilà, c'est les élèves qu'on mettait dans les années 80. Dans des classes dépotoirs. Et aujourd'hui, c'est vrai que c'est très difficile de faire comprendre à un enseignant, puisqu'il y a plusieurs enseignants, et donc voilà, pour un parent, c'est un combat de chaque jour pour lui faire entendre qu'il faut un aménagement, il faut, comme je disais tout à l'heure, des codes couleurs, il faut une clé USB pour les cours, qu'il ne peut pas écrire ses devoirs, et donc que le lendemain, il n'aura pas ses devoirs. Et enfin voilà, il faut s'organiser avec des binômes, enfin, c'est phénoménal. Sachant qu'en plus, ils vont voir des spécialistes à l'extérieur, en dehors de l'école, comme des
ergothérapeutes. Oui, donc ça fait des semaines extrêmement chargées.
Voilà, un ordinateur, il faut apprendre le clavier, il faut apprendre les logiciels pour travailler. Il faut aller voir des orthoptistes pour visualiser. Enfin, c'est plein de... On ne s'imagine même pas. Enfin, c'est vraiment un handicap invisible. Quoi.
Serge Ebersold.
Oui, je crois que ce qui spécifie les personnes dont la particularité n'est pas visible, c'est qu'on est dans une logique de l'acceptation distraite. C'est-à-dire que ils sont là.
Voilà.
Charge aux parents de faire en sorte que les choses se déroulent le mieux, avec effectivement, comment dirais-je, la suspicion que peut avoir l'enseignant ou les acteurs de l'école vis-à-vis de quelqu'un qui ne respecte pas les règles du métier d'élève.
Parce qu'ils sont intelligents en plus.
Oui, c'est ce qui est terrible. C'est-à-dire que. Ils importunent. Je crois qu'il faut bien distinguer plusieurs choses par rapport à la différenciation des pratiques pédagogiques. Il y a ce qui est de l'ordre de la visibilité. C'est-à-dire lorsque la déficience est visible, type surdité, déficience visuelle, etc., on est dans une logique de compensation, assez rapidement, et surtout qu'en France, c'est extrêmement marqué. Intervient ce que l'on appelle la notoriété, c'est-à-dire que la manière dont on va qualifier l'élève va conditionner le regard que va porter l'enseignant sur l'élève et lui permettre ou non de voir la personne comme un élève des barres. Et puis il y a l'importunité, c'est-à-dire qu'il est important, et à l'heure actuelle on n'évalue pas les besoins de l'élève, on évalue le niveau d'importunité de l'élève. C'est-à-dire que est important celui qui bouscule les règles, les us et les coutumes qui régissent le fonctionnement de la classe, qui régissent le fonctionnement de l'établissement. Et ce qui fait que un élève qui présente une particularité, que ce soit un haut potentiel ou que ce soit une dyspraxie, une dyslexie, etc., est quelqu'un qui est important et qui, par définition, dérange ou invalide l'enseignant dans la représentation de ce qu'est la pratique.
Laurence Bossy, je rappelle que vous êtes enseignante, et je poserai la même question, enfin on est presque déjà là, au terme de l'émission, mais à nos deux parents d'élèves. Pourquoi est-ce que c'est si important de scolariser dans des établissements ordinaires des enfants qui sont en situation de handicap? Est-ce que, étant donné les difficultés qui sont celles qu'on entend ce soir, la prise en charge ne serait pas meilleure finalement, plus efficace et plus pertinente dans des établissements qui seraient spécialisés?
Je trouve que l'enfant est là où il est le mieux, c'est dans son école de secteur, avec ses amis qui sont à l'école primaire, au collège ou au lycée. L'établissement dans lequel je travaille n'est qu'une passerelle, c'est-à-dire que ces jeunes viennent un an ou deux reprendre des forces au moment du collège et au moment de ce regard un peu maltraitant pour bon nombre d'entre eux.
Et l'idée, c'est vraiment de retrouver le circuit.
Ils repartent.
Mais c'est en termes de socialisation que c'est important.
Ben c'est important, oui, parce que c'est là où ils trouveront du sens à leur vie et leur vie avec les autres. La socialisation est importante. Mais c'est vrai que je trouve que vous brossez un portrait. Alors là, c'est l'enseignante qui réagit, un portrait un peu sombre des enseignants. Il me semble quand même que pour être formatrice et aller dans les établissements, il y a plein de choses qui changent. Et effectivement, on est en train d'amener des formations pour se mettre dans la peau d'un dyslexique, d'un dysgraphique, d'un dyscalculique, d'un dyspraxique. C'est important, ou d'un EIP aussi, pour que ces enfants-là aient leur place, effectivement. Mais il me semble que les enseignants sont quand même souvent de bonne volonté pour faire bouger les curseurs. Même si c'est compliqué parfois d'inventer cette nouvelle classe, ces enfants nous réaniment. Et je crois qu'il faut écouter ce qu'ils nous font vivre.
Sur cette question, Christelle Chasson, de la nécessité de pouvoir scolariser au maximum. Alors là, en l'occurrence, votre fils, dans un établissement, on appelle ça ordinaire. Bon, moi, ça, manifestement, c'est comme ça qu'on dit pour parler des écoles dans lesquelles vont la plupart des enfants.
Bah, pour moi, c'est une évidence. Si on lui permet plus tard d'être intégré dans la société, de faire partie de s'il veut être un acteur de la société, si on le met déjà en marge pendant la scolarisation, c'est évident que ce sera beaucoup plus compliqué après de rejoindre un cursus classique. Et puis lui-même, c'est vrai qu'on a visité à deux reprises des structures spécialisées et il en est ressorti extrêmement malheureux. Et lui, il comprenait pas, parce qu'effectivement, moi, il se range pas vraiment dans une case, mon fils, parce que il a effectivement son handicap moteur, et il a aussi des troubles autistiques. Et quand on visite des centres des troubles moteurs, il est beaucoup moins handicapé que ceux qui sont à l'intérieur. Et quand on va dans les centres pour autistes, il est pas complètement autiste, il a des troubles autistiques. Donc au final, il peut être un peu ici, un peu là-bas, etc. Et lui, finalement, même si l'école c'est compliqué, l'endroit qui est le mieux pour lui, ça reste l'école ordinaire, oui.
Il a 13 ans et demi, il va commencer, j'imagine, à penser à son orientation.
Oui.
Est-ce que...
Lui, il n'y pense pas, mais l'école, en tous les cas, il y pense pour lui. Oui.
Ouais, et sa maman aussi,
Non, sa maman, elle n'est pas pressée.
Quand vous dites l'école, il pense pour lui, c'est-à-dire qu'on l'oriente déjà vers...
Ça fait longtemps, en fait. Moi, ça fait depuis que mon fils a 5 ans qu'on me demande son projet de vie, si vous voulez. Donc, vous imaginez bien qu'à 5 ans, enfin, je ne sais pas si vous savez ce qu'on voulait faire.
Parce qu'on considère, par exemple, qu'il ne pourra pas suivre certaines filières. C'est-à-dire, d'emblée, on le...
Bah, c'est ça ou... on veut le faire rentrer dans des cases, et effectivement, au plus comme ça, vous embarquez ces enfants-là dans des voies de garage où plus finalement ils vont sortir du système ordinaire. Donc effectivement, moi c'est ce que je veux pas, parce que c'est un enfant qui apprend très vite et qui apprend bien quand il est bien disposé. Donc il a aucune raison justement de sortir de ce cursus-là. Et c'est plus facile de prendre des décisions pour son avenir à 18 ans que quand on a 12 ou 13 ans, de toute façon.
Christelle Chantre-Béchouche, juste sur cette question justement de l'orientation, et c'est-à-dire que la scolarisation, oui, mais à un moment donné, il faut penser évidemment à l'orientation professionnelle. Est-ce que là, les portes se referment aussi?
Oui, c'est un combat. Ça a été un combat pour nous aussi. Ils ont tout fait pour le mettre en...
Votre fils qui a 22 ans, par exemple, il fait quoi aujourd'hui?
Alors, on a réussi à lui faire... Moi, je me suis battue avec les points bonus pour avoir une formation professionnelle qui lui plaisait, donc un bac pro audiovisuel.
Pardonnez-moi, qu'est-ce que c'est les points bonus?
Alors, en fait, quand vous avez un handicap, vous avez des points bonus pour rentrer dans une école...
Un bonus médical.
C'est un bonus, voilà, que vous avez, donc il faut se battre... avec les points bonus, voilà.
D'accord.
C'est un peu terrible. Et justement, pour avoir une priorité par rapport aux autres élèves, bon, ce qui est plutôt bien. Mais aujourd'hui, il serait inscrit dans une fac de biologie, ce qui n'a rien à voir avec un bac pro audiovisuel. Donc, ce qui prouve qu'on s'est battu pour qu'il continue, au moins qu'il ait un bac. Moi, je lui ai dit, passe au moins un bac pro et après, tu feras ce que tu veux, tu essaieras toi-même de te réinsérer. Mais voilà, il faut, l'école, c'est la société. Donc, de toute façon, il faut les aider...
Et l'école a un rôle émancipatoire. Je veux dire, un jeune qui a le bac, par exemple, il ne se pense pas handicapé. Il dit, je présente peut-être une particularité, mais il y en a probablement qui sont beaucoup plus handicapés que moi, compte tenu de tout ce que j'ai fait pour arriver là où je suis. Je crois que c'est extrêmement important. L'école a un rôle émancipateur.
Et bien, ce sera, si vous le voulez bien, la conclusion pour ce soir. Merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à la discussion. Christelle Chasson, Serge Ebersold, Laurence Bossy et Christelle Chantreau-Béchouche. Les références bibliographiques des uns et des autres, ce sera sur notre site franceculture.fr, la page du Grand Moudre. C'est sur cette page que vous pourrez également réécouter et télécharger l'émission. N'hésitez pas également à nous écrire. Merci à l'équipe du Grand, Fanny Richer, Antoine Dulster, Virginie Ledoux, Antoine Tricot, Cyril Marchand. Émission réalisée par Peyré Legras, avec à la prise de son Élise Leu.